Dernier chapitre. Monsieur Vianney est en proie au remords. Il trouve encore qu'on le soigne trop bien. Je pense, dit-il à celle qui s'occupe de lui, que si vous aviez plus de charité pour moi et pour les âmes, vous ne me prépariez jamais rien. Je ferais un peu pénitence et tout le monde s'en trouverait mieux. Et pourtant, usé par son zèle comme une lame par la meule, souvent, il revient de l'église en tombant d'inanition, obligé de s'asseoir parce que ses jambes se dérobent sous lui. Il est alors content. Il rit d'un bon et franc rire, se moque de son cadavre, s'adressant à lui avec une étrange et douce ironie. « Allons, mon pauvre colon, debout, tiens-toi bon. » Le colon dont il s'agit n'est autre qu'un ivrogne de la paroisse qui, lorsqu'il a trop bu, s'encourage ainsi pour se donner des jambes. Il est arrivé plusieurs fois que M. Vianney se trouve mal en chair au confessionnal ou même chez lui. Lorsque Catherine le voit dans cet état, elle s'empresse et le soigne, mais ne peut s'empêcher de laisser libre cours à son irritation. « Eh bien, monsieur, lui dit-elle alors, vous devez être content cette fois. Vous êtes bien allé jusqu'au bout. » La bonne Catherine est d'autant plus désolée que le visage impressionnant de M. Vianney, creux et massier d'une pâleur de pierre, irradie on ne sait quelle joie intérieure, et pour évoquer l'une de ses défaillances, elle dira, « Il semblait venir d'un endroit où il avait emporté ou remporté une grande victoire sur un ennemi qui était lui-même. Il riait en se moquant de cet ennemi. » Pendant les carêmes de 1849, 50 et 51, dira de son côté le frère Athanase, j'observais qu'il ne fit strictement qu'un seul repas par jour. Et frère Jérôme déposera à son tour que si on le vit quelquefois le midi accepter un dessert, il s'en priva totalement les deux dernières années de sa vie. Davantage, les témoins déposeront qu'avant sa grave maladie de mai 1843, le curé d'Ars n'avait jamais rien mangé le soir. Entre 1854 et 1859, il devra s'accorder quelques adoucissements sur l'ordre formel du docteur Saunier. C'est une vraie catastrophe pour M. Vianney. « Maintenant que je suis obligé de prendre une nourriture plus fortifiante, dit-il en gémissant, je suis moins à mon aise quand je me confesse, et de s'accuser encore de gourmandise. Or, la plupart du temps, et quoi qu'on lui prépare, il trouve le moyen de ne boire qu'un peu d'eau rougie de vin, mangeant à peine quelques bouchées de pain. Il avale aussi du lait troublé avec du chocolat, mais on a eu grand peine à lui faire accepter ce mélange. Il lui faut de 5 à 10 minutes pour expédier son repas, et c'est encore beaucoup trop long pour lui. Puis il s'achemine vers son propre hiver, et plus il recherche les mortifications comme d'autres recherchent les plaisirs, on sait qu'il aime les fleurs, il s'interdit d'en respirer une seule. Manger des fruits est l'une des rares faveurs qu'il se soit accordée dans sa vie. Il n'en veut plus désormais. Au jour de l'été, alors que la chaleur se rassemble au creux du village comme dans une marmite, M. Vianney, que ses pénitences et ses jeûnes ont gravement déshydraté, lutte aussi longtemps qu'il est humainement possible contre le besoin de boire. À l'église, il s'agenouille sans jamais s'accouder. Il a refusé les malheureux coussins qu'on a voulu installer dans son confessionnal. Il en arrive à ce point qu'il ne veut plus chasser une mouche posée sur son front. À chaque bras, il porte un bracelet de fer hérissé de pointes aiguës. Son corps est couvert d'un cilice et parfois des plaies s'y forment, lui causant, surtout pendant les interminables stations au confessionnal, des douleurs intolérables. Une question se pose à laquelle il n'est pas de réponse humaine et tous les témoins le disent avec émotion. Comment M. Vianney tient-il encore debout ? Le curé d'Ars craint d'abord et avant tout les honneurs. Or, il va recevoir des distinctions importantes à sa profonde consternation. Le nouvel évêque de Belley, Mgr Chalandon, qui a succédé à Mgr de Vie au mois de juillet 1852, veut en effet donner le camail de chanoine au prêtre le plus méritant de son diocèse. Un beau jour d'octobre 1852, le prélat fait donc le voyage d'Ars. Le voici sur le seuil de l'église. Monsieur Vianney n'est pas là pour le recevoir car il est en train de confesser. Prévenu, le curé aussitôt s'empresse pour accueillir son visiteur. Mais que voit-il dans les mains de Monseigneur ? Un objet de soie rouge et noire, bordé d'hermine, un camail. C'est une catastrophe. Et le visage de Monsieur Vianney laisse transparaître ses sentiments. « Non, Monseigneur, dit-il en balbutiant, Éperdu, il trouve une solution à laquelle personne n'a songé, sauf peut-être M. Raymond lui-même. Donner cela à mon vicaire, il le portera mieux que moi. Mais l'évêque ne l'entend nullement de cette oreille. Il impose à l'abbé Vianney le fameux camail de chanoine qui d'ailleurs tombe de travers sur les épaules du nouveau dignitaire. Et la comtesse Desgarais contera la scène. Notre pauvre curé ressemblait à un supplicié que l'on mène à l'échafaud la corde au cou. Il se réfugia dans la sacristie. Mais M. Desgarais, qui l'y suivit, et le trouva occupé à arracher de son dos le camail. Le maire ne put le déterminer à le garder qu'en lui représentant que s'en dépouiller serait faire injure à Monseigneur. Le frère Athanase, lui aussi, est témoin de l'affaire. Petite annotation, le frère Athanase, que nous avons déjà cité, s'appelle en réalité Jacob Planche. Il est né à Chalon-sur-Saône le 2 janvier 1825 et devient directeur de l'école des garçons d'Ars en 1849 pour y demeurer jusqu'en 1886. C'est l'un des plus fidèles amis du curé d'Ars et c'est à Ars qu'il mourra en 1912. Son compagnon, le frère Jérôme, de son vrai nom, François Dunoyer, né en 1822, arrive à Ars comme sacristain en 1849 et y demeurera jusqu'en 1874, après avoir lui aussi fidèlement servi le curé d'Ars. Alors, dira-t-il, M. Vianney se retira dans l'embrasure de la sacristie, tout honteux, comme s'il eût voulu se cacher. Je vins lui souffler à l'oreille, « Monsieur le curé, ne restez pas là, vous êtes dans le courant d'air. Je suis bien ici. » « Laissez-moi, me répliqua-t-il, mais l'épreuve ne fait que commencer. Monseigneur Chalandon annonce à l'assistance la promotion du curé. Le camail, du même coup, tombe de plus en plus de travers. On aurait dit, racontera un témoin, que monsieur le curé avait des épines sur le dos. Un autre spectateur dira, il avait l'air d'un condamné à mort. Et sans pitié, madame Desgarais considère la scène comme la plus amusante qu'il se puisse imaginer. » L'évêque partit, monsieur Vianney cherche aussitôt à vendre son camail et il en obtient 50 francs pour ses pauvres. Enchanté, il écrit à son évêque en toute innocence, lui annonçant et la vente et le prix, sans oublier de remercier sa grandeur pour la camaille. Après la dignité de chanoine, c'est la Légion d'honneur qui tombe sur le curé d'Ars. Mais cette fois, comme il ne sait pas exactement de quoi il s'agit, l'événement le laisse froid. Au lieu de remercier le préfet qui vient le féliciter, M. Vianney se permet de lui dire qu'il préférerait quelque chose pour ses pauvres. Puis, se croyant le droit de le faire, il veut à toute force remettre sa décoration à M. l'abbé Tocagnier en lui souhaitant autant de plaisir à la recevoir que moi à vous la donner. Cependant, les forces du saint déclinent. Il continue d'être épouvanté par la perspective du jugement de Dieu et la charge de curé pèse de plus en plus lourdement à ses épaules. En 1853, il va essayer une nouvelle fois de s'en libérer. Chose étrange, l'annonce du départ de M. Raymond, son terrible auxiliaire, l'affecte profondément. C'est l'abbé Tocagnier, un missionnaire diocésain, qui va occuper le poste vacant, et d'autres missionnaires se joindront à lui. Tout cela fait augurer des changements, ce que M. Vianney craint beaucoup. Cependant, estimant que la paroisse d'Ars se trouve désormais en bonne main et que le pèlerinage est bien dirigé, le pauvre curé, peu à peu, sent poindre en lui un nouvel espoir. Après tout, puisqu'il n'est pas indispensable, il va pouvoir enfin disparaître. Le 1er septembre de cette année 1853, vers midi, le saint dit à Catherine Lassagne « J'ai pensé que je dois partir cette fois. Mon beau-frère, M. Melun, qui habite à la paroisse Saint-Irénée, près de Lyon, m'attend. Je m'en irai lundi, dans la nuit. Vous garderez cela pour vous. Oh, monsieur le curé, il ne faut pas vous en aller, dit avec force la pauvre Catherine. Mais M. Vianney semble décidé. « Monseigneur ne s'embarrasse pas de moi, il a assez de prêtres. » Or, M. Vianney se fait des illusions, car le nouvel évêque de Belley, Mgr Chalandon, tient aussi fort à son curé d'Ars que Mgr de Vie. M. Vianney devrait le savoir, lui qui s'est vu répondre tout récemment par le prélat, « Moi, vous laissez partir, monsieur le curé ? Mais ce serait un si grand péché que personne ne voudrait m'en donner l'absolution. » Quoi qu'il en soit, Catherine se confie à Marie-Philippe. Et voilà les deux bonnes filles en larmes. Que faire? Le curé d'Ars a plus de 67 ans. Il n'est pas question qu'il se rende à pied jusqu'à Lyon. Bien vite, on met le sacristain, frère Jérôme, dans le secret. Et plus vite encore, le frère Athanase est averti. Peu d'instants suffisent pour que l'on prévienne à son tour le vicaire, M. Tocagnier. Montez la garde devant le presbytère, dit l'abbé Tocagnier, après y avoir réfléchi. Si réellement M. le curé tente une fuite, vous m'appellerez. Et de fait, à minuit, on réveille le vicaire en frappant à sa porte. Il ne s'est pas déshabillé et se précipite sur la place. Il y retrouve les deux frères, épiant les mouvements du Saint-Curé, qu'on voit s'agiter dans sa chambre grâce à la lueur de sa lampe. « Laissons-le descendre, » dit l'abbé Tocanier. Monsieur Vianney descend, en effet, et se rend chez Marie Filiate et Catherine Lassagne, ses soi-disant complices. « Êtes-vous prêtes ? Eh bien, partons !» Voici le curé d'Ars dehors. Et soudain, que voit-il ? Les deux frères et l'abbé Tocanier qui se tiennent devant lui. « Vous m'avez vendu, » dit Monsieur Vianney sévèrement à Catherine Lassagne, qui fond en larmes. « Où allez-vous, monsieur le curé ?» dit alors le frère Athanase. « Vous voulez nous quitter ? Eh bien, nous sonnerons le tocsin. » Et continue le frère Jérôme, « Nous vous suivrons en procession. »« Faites, » répond Monsieur Vianney d'un ton bref et résolu, « et laissez-moi passer. » La nuit est profonde. Mais sur les pas du curé d'Ars, il y a maintenant tout un cortège. Les pèlerins, les paroissiens qui gémissent, réclament leur bon père, écrit à qui mieux mieux. C'est un véritable tumulte, et M. Tocanier en profite pour essayer de convaincre le curé d'Ars. Finalement, le missionnaire arrache à M. Vianney son bréviaire et le remet à Catherine Lassagne, qui l'emporte furtivement. Et comme le curé d'Ars parle de s'en aller quand même, « Hé, quoi, monsieur le curé, vous passerez les heures du jour sans dire votre office ? Bel exemple !» De fil en aiguille, on trouve mille façons de retarder la fuite du saint, de lui tendre des pièges, de le tromper. On lui représente, et toujours selon le récit de l'abbé Tocanier, Monseigneur de Vie qui du haut du ciel lui fait les gros yeux, et M. Vianney commence à n'être plus très fier de lui. « Monseigneur sait bien que j'ai besoin d'aller pleurer ma pauvre vie, » dit-il, mais déjà plus faiblement. En fin de compte, le curé d'Ars se trouve entouré, cerné par tout le monde. Les femmes ont quitté l'église et se sont mêlées aux hommes, et l'on entend des cris jaillir de plus belle. « Mon père, avant de partir, confessez-moi ! Oh non, ne nous quittez pas !» Après un dernier effort de l'abbé Tocanier, M. Vianney comprend qu'il s'agit sans aucun doute de la volonté de Dieu. Il est prisonnier des pécheurs et prisonnier d'Ars, où il devra rester jusqu'à la fin. Il se dirige vers l'église en compagnie du comte des Garets. Le gentilhomme qui est devenu pour M. Vianney un véritable ami essaie à son tour de le raisonner, mais sans répondre, lui tournant brusquement le dos, le curé d'Ars prend son surplis et se dirige vers le confessionnal. « On l'y porta plutôt qu'il n'y marcha, » dit encore M. Tocanier. Le pauvre prêtre a donc manqué totalement son évasion. Dès lors, il se jette dans son ministère, tête baissée, comme un martyr dans un brasier. Puisque la retraite lui est fermée, puisque ce temps de réflexion et de pénitence qu'il désire de toute son âme, non pour se reposer, mais pour mériter le ciel en prenant le loisir de prier, puisque tout ce qu'il demande lui est refusé, eh bien, il va tâcher de ne pas se damner, va s'efforcer d'être vraiment un curé, le curé du petit village d'Ars. On le verra plus tôt encore à l'église et son confessionnal, il ne le quittera guère. Mais il n'en a pas fini avec les incongruités des admirateurs excessifs, ni avec l'abus que l'on fait de son image et de son nom. À son grand désespoir, des guides, des albums de toutes sortes commencent à être publiés sur Ars et sont Saint-Curés à l'usage des pèlerins. Un fructueux commerce s'établit ainsi, et plus que jamais, l'on vend M. Vianney de toutes les façons. En 1852, apparut notamment un album intitulé « Le pèlerinage d'Ars », publié par un éditeur lyonnais, avec d'assez bonnes illustrations, mais un fort pauvre texte. Il faut avoir parcouru cet album, qui est pratiquement introuvable aujourd'hui, pour mesurer toute l'indiscrétion, toute l'indécence de ce genre d'opuscule. M. Vianney, y dit-on, est un homme d'une taille moyenne, au corps grêle, d'une maigreur et d'une pâleur excessive. Exténué par la maladie et le jeûne, joue cave, pommette saillante, œil vif et profond, le faciès de ses seins espagnols, plein de l'expression indéfinissable que savait seul donner Zurbaran ou Murillo. Monsieur le curé passe la plus grande partie de son temps dans son église. Ordinairement, il en sort à 10 ou 11 heures du soir, il ne fait dans la journée qu'un repas, et il est certain que ses substances alimentaires sont choisies parmi les légumes les plus communs. Suivez le guide. Nous parlions d'indécence, il nous semble que de telles descriptions sont scandaleuses, où l'on prospecte en détail les traits et les mœurs du pauvre M. Vianney avec les précisions d'une mission topographique. Mais il y a pire encore. En 1854, un certain Azin de Bernétas publie chez Péris Frères à Lyon un petit livre intitulé « Ars et beaux mots » que nous avons consulté et qui porte en sous-titre un texte étonnant, ouvrage utile à toute personne qui désire assurer son salut, seule chose nécessaire. Enrichi d'une fondation qui donne droit à 52 messes par an, à perpétuité, et dont le prix est destiné à une œuvre pieuse. Dans une préface, l'auteur évoque la prière de Saint Bernard à Marie et signe en toute simplicité « De votre majesté la plus grande après celle de Dieu, le très dévoué et toujours constant et fidèle serviteur, TMJTH Azin de Bernetas ». On imagine sans peine combien ce ton doit plaire au pauvre curé d'Ars. Pour vendre son ouvrage, l'auteur y promet des avantages spirituels fort nombreux à tout acheteur éventuel, selon des règlements et des barèmes compliqués. Nous lisons notamment sous sa plume les dispositions suivantes où la naïveté et la présomption le disputent aux mathématiques. Le bienfait de cette fondation, qu'on le sache bien, et une fois pour toutes, donne à chaque membre qui est pourvu de ce livre droit à 52 messes par an, à perpétuité tous les samedis, dont 26 pour les vivants et 26 pour les morts. C'est aux membres vivants de la famille à appliquer par voie de suffrage, à leurs chers défunts actuels, ces 26 messes des morts, lesquelles seront de droit pour eux après leur décès. Tandis que les 26 autres des vivants seront toujours pour les membres vivants de la famille de génération en génération, lesquels, venant à disparaître, jouiront des 26 appliqués aux morts. Mais M. Azin de Bernetas ne s'en tient pas là. Dans le petit livre en question, il nous fait un cours sur la spécialisation des grands personnages du ciel, et ce livre a une mise en équation des neuvaines, non sans évoquer directement le malheureux M. Vianney. Monsieur le curé fait faire des neuvaines au Saint-Esprit, à la Sainte Vierge, à Saint-Joseph, à Sainte-Philomène, selon les besoins spirituels ou temporels des personnes ou pour d'autres intentions. Pour se préparer à quelque grande solennité, à une confession, à une communion, ainsi s'agit-il de lever une difficulté qui puisse compromettre l'affaire du salut, d'obtenir le don de sagesse, d'entendement ou de force. La neuvaine s'adresse au Saint-Esprit. Est-ce une sincère confession, quelques vertus particulières, la ferveur, la charité, l'amour des croix qu'on sollicite? C'est à la Sainte Vierge qu'on a recours. Le guide sûr dans l'oraison, dans toute la vie intérieure, le patron de la bonne mort, le protecteur de plusieurs congrégations, des chrétiens engagés dans les liens du mariage, c'est Saint Joseph. Sainte Philomène est invoquée pour les besoins extérieurs, les maladies, les infirmités corporelles. Suit alors un texte plus bizarre encore, qui est une sorte de preuve par neuf de la grâce divine. Un véritable cours public sur les mille et une façons de combiner une neuvaine. Neuf communions, neuf jours de suite ou répartis. Neuf heures d'oraison ou neuf demi-heures. Neuf fois le chemin de la croix selon la ferveur et le temps dont on dispose, etc. Et tous ces tristes bouquins se vendent fort bien. Monsieur Vianney en est absolument navré. Il a d'ailleurs été prévenu de ce qui se préparait. Et dès le 24 avril 1853, il écrit à Monseigneur Chalandon une lettre, où nous trouvons notamment ceci. « Depuis plusieurs années, on a publié dans la paroisse d'Ars et ailleurs des notices plus ou moins inexactes, dont je suis le sujet et dont j'ai quelquefois à rougir. On a aussi publié des livres de piété enrichis de traits extraordinaires, faux et exagérés. Les auteurs ou éditeurs de ces livres seront naturellement imités par d'autres spéculateurs. » Monsieur Vianney signale ensuite à l'évêque les divers ouvrages incriminés. Puis il attire son attention sur un livre qui s'élabore sous le titre « D'Ars et Beaumont, dont vous avez blâmé si justement le prospectus ». Il s'agit, ni plus ni moins, de notre fameux Azin de Bernetas. En définitive. Pour se protéger d'une manière plus efficace et précise contre ce genre de publication, le pauvre curé d'Ars signera, bien tard, la procuration suivante, dûment rédigée en style notarié le 16 mars 1858. « Je sous-signé Jean-Marie Baptiste Vianney, prêtre desservant, demeurant à Ars dans l'Ain, donne par le présent pouvoir à M. Joseph Tocanier, prêtre missionnaire, demeurant aussi à Ars, de pour moi et en mon nom poursuivre en justice toute personne qui font trafic de mon nom, qui impriment mes instructions pastorales ou catéchismes et les mettent en vente, comparaître devant tout bureau de paix, tout tribunal de première instance et cour d'appel, etc. Fait à Ars, bon pour procuration de sa main, Jean Vianney, curé d'Ars. » Cependant, M. Vianney n'a rien changé à ses pratiques d'humilité. Il semble au contraire qu'en approchant de la mort, il se montre de plus en plus dur pour son corps, de plus en plus détaché, désincarné. Vers cette époque des dernières années, une sœur d'Osité, doyenne de la Providence, de Vito, se rend à Ars. Et dès son entrée dans l'église, elle a la chance d'apercevoir le saint agenouillé sur le marchepied de l'autel et lisant son bréviaire. « Je pus l'examiner là tout à loisir », racontera la sœur d'Osité. Je remarquais ses cheveux taillés par devant et assez longs par derrière. Son corps ne paraissait être qu'un paquet d'eau, ses bras et ses jambes des baguettes. Un débris de mouchoir retenait ses bas en guise de jarretière. Si le curé d'Ars ressemble de plus en plus à l'idée que les anciens se faisaient du nombre, son presbytère devient réellement jour après jour la demeure d'un esprit. On sait que le foyer de sa cuisine n'a jamais vu le feu. De toutes les pièces qui composent la cure, la chambre à coucher seule est logeable. Et quand nous disons logeable, c'est encore à l'abbé Monin, témoin oculaire et confident des dernières années, que nous laissons le soin de décrire cette pièce. Les pauvres meubles qui la garnissent ne lui appartenaient pas. Ils avaient tous été vendus et rachetés plusieurs fois. Il n'y avait pas de religieux ayant fait vœu de pauvreté dont la cellule fut plus modeste. Dans cette petite pièce laide, noire, enfumée, éclairée par deux fenêtres sans rideaux, tout a conservé un air de vétusté et de délabrement. De naïves peintures sur verre décorent ça et là les murailles, revêtues d'un vieux papier en loc qui achève de disputer ses restes de couleurs à la fumée. En face de la porte se voit une série de rayons chargés de vieux livres. En 1959, l'année du centenaire de la mort du curé d'Ars, d'autres pèlerins, et toujours plus nombreux, retrouveront cette chambre exactement telle qu'elle est décrite par le témoin de l'époque. Je l'ai vue. Et tout le monde peut la voir. Le papier en loques est toujours là. Et les tableaux ornent toujours les murs. Les images de ces chers saints, de ces bons saints, comme disait Monsieur Vianney. On y trouve, rangés en rang d'oignons, Jésus baptisé par Saint Jean, Jésus rédempteur du monde, la très sainte Vierge, gravure reproduisant une peinture de Murillo et portant la signature autographe du curé d'Ars, Saint Vincent de Paul, Saint François Régis, Sainte Philomène, et puis un dessin naïf du saint prophète Élie. Au-dessous de cette petite galerie s'alignent les portraits des évêques successifs du curé d'Ars, dont la présence même atteste le respect. On pourrait presque dire la tendresse qu'il leur a donnée. Monseigneur de Ville, le plus marquant d'entre eux, et nous le répétons, celui qui l'a le plus aimé, nous apparaît dans sa laideur sympathique et originale, avec ses lunettes, ses cheveux plats et longs, sa bouche petite et prise dans la parenthèse des rides, son menton pointu et rugueux, et ce front bizarre en pain de sucre. À côté de lui, Monseigneur Chalandon incarne un type de prélat somptueux et fleuri, figure poupine, front étendu et plein de lumière, œil doux. Quant aux enseignements de Monsieur Vianney, en chair lors des instructions de 11 heures ou dans le confessionnal, ils poursuivent une évolution conforme à la montée même du curé d'Ars vers la sainteté. Il ne s'agit plus que de l'amour de Dieu, de l'amour des autres, de l'immense communion de l'amour et de cette échelle d'or qui relie le ciel aux hommes. « Aimez bien vos prêtres », a dit simplement le curé d'Ars à son évêque, venu s'agenouiller devant lui. Oh, quelle belle acquisition que le ciel, s'écrie-t-il. Et quelqu'un lui demande « Que faut-il pour mériter cette récompense dont vous nous faites un si magnifique tableau ?»« Mon ami, répond-il, la grâce et la croix. » Je pense quelquefois, mes frères, qu'il y aura peu de bonnes œuvres de récompenser, parce qu'au lieu de les faire par amour pour Dieu, nous les faisons par habitude, par routine, par amour de nous-mêmes, que c'est dommage. Tout sous les yeux de Dieu, tout avec Dieu, tout pour plaire à Dieu. En prêchant l'amour, il appelle avec des larmes le détachement. À l'exemple des saints, faisons souffrir notre corps lorsqu'il voudrait se révolter. Affaiblissons-le par la peine et la pénitence, afin d'en être maître. On a vu des saints verser des larmes lorsqu'ils étaient obligés de manger. Ils auraient préféré consacrer ce temps à la prière. Au reste, Monsieur Vianney craint moins que jamais de se répéter. Il sait ce qu'il doit dire, connaît la nature des clous à enfoncer et pour cela tient le marteau qu'il faut. Les amateurs d'éloquence classique n'y trouvent pas leur compte. Et l'abbé Raymond, toujours lui, écrira sans beaucoup de respect. Souvent, son catéchisme n'était qu'un pathos, c'est-à-dire un peu de tout. Il est vrai qu'il ajoute, ce tout était beau et agréable pour ceux qui savaient en profiter. Dieu merci, ils sont nombreux qui en profitent. Parmi ceux qui ont la chance de vivre à la même époque et dans le même lieu que cet homme de Dieu et qui peuvent le voir. Parfois, le visage du vieux prêtre s'enflamme. Son action était si vive, dira encore l'abbé Raymond, surtout quand il parlait de l'amour de Dieu, qu'il semblait ne plus tenir à la terre. Sa parole était simple et sans nul art, mais il la prononçait en homme inspiré. Il était aisé de juger en l'entendant qu'un feu divin le transportait et l'élevait au-dessus de lui-même. D'autres diront qu'il leur a suffi de deux ou trois mots de lui pour être bouleversé. Mais on n'entend plus guère Monsieur Vianney. Il s'est fait arracher à peu près toutes les dents pour se délivrer des douleurs intolérables qui le tourmentaient. Et les mots qui sortent de sa bouche sont le plus souvent peu intelligibles. Et pourtant, l'effet qu'il produit sur ses auditeurs est de plus en plus extraordinaire. Son dernier évêque, Monseigneur de Langalerie, le dira avec admiration. Même lorsqu'on ne l'entendait pas, lorsqu'on ne le comprenait pas, sa vue en chair, sa vue toute seule prêchait, touchait, convertissait. Pour soutenir cette vie héroïque, usée jusqu'à la trame, pour maintenir la flamme allumée dans cette enveloppe corporelle desséchée, Monsieur Vianney reçoit, il est vrai, de surhumaines consolations. Nous avons d'ailleurs fort peu de documents et de témoignages sur les rapports ineffables du curé d'Ars avec le ciel. Comme l'a écrit l'abbé Naudet, la spiritualité du saint est très exacte. Il sait, comme tout bon conseiller d'âme, que de telles manifestations sont toujours dangereuses et qu'il convient de tellement s'en méfier que l'on doit n'en faire nul cas une fois que l'activité qu'on a crue divine s'est arrêtée. Voilà pourquoi sans doute M. Vianney ne veut pas se confier, touchant les apparitions ou les lumières qu'il a pu avoir. « Oh, pour ça, dit-il, n'en parlons pas. » On compte environ 9 témoignages écrits encore l'abbé Naudet, soit de lui quand il s'est coupé, soit d'autres qui auraient vu avec lui. C'est pourquoi on peut admettre que Dieu lui a accordé des faveurs insignes. Catherine Lassagne, d'après ce qu'elle en dira plus tard à sa cousine, a vu la Sainte Vierge en sa compagnie. Elle n'en parlera jamais dans ses dépositions au procès de canonisation, ni dans son petit mémoire. Simplement, elle évoquera le jour où M. Vianney est venu vers elle, le visage défait en murmurant « Catherine, quelle grâce ! Quelle grâce !» On sait que l'abbé Vianney a dit en chaire, « Mes frères, si vous saviez ce qui s'est passé dans la chapelle de Saint-Jean-Baptiste, vous n'oseriez plus y mettre les pieds. » Un autre jour, il dira, « Le bon Dieu me faisait des grâces extraordinaires. Au Saint-Autel, j'avais les consolations les plus singulières. Je voyais le bon Dieu. Je ne vous dirai pas ce que ce fut d'une manière visible, mais le bon Dieu me faisait bien des grâces. » Quant à l'abbé Monin, il cite un témoignage de M. Tocanier qui interroge un jour le curé d'Ars. « Vous priez encore la nuit, monsieur le curé ? C'est quand je me réveille. Je suis vieux maintenant. Je n'ai pas beaucoup de temps à vivre. Il faut profiter de tous les moments. » Vous couchez sur la dure et vous ne dormez pas beaucoup. Alors M. Vianney répond à M. Tocanier avec un air pénétré. « On n'est pas toujours couché sur la dure. » Un peu plus tard, le vicaire dit à son curé. « Vraiment, le bon Dieu, par ses fondations, vous fait voir clairement ce qu'il veut ici. »« Il y a bien autre chose, » répond le curé d'Ars. Et puis, comme se repentant de cet aveu, il change de conversation. À un autre témoin, M. Vianney confesse un jour qu'il a vu Sainte Philomène, toute lumineuse, environnée d'un nuage blanc. « Et de question en question, dit encore l'abbé Tocanier, j'ai tiré de la bouche de notre saint cet aveu que notre Seigneur lui a donné des signes prodigieux pour lui faire comprendre combien son ministère lui est agréable. Il m'a raconté en particulier qu'il avait eu la nuit un grand saisissement, qu'il avait vu debout, à ses côtés, une personne qui lui parlait doucement. Ce n'était pas le grappin, ajoutait-il. Le grappin a la voix aiguë. « Enfin, monsieur le curé, demande le vicaire en brusquant les choses, vous avouez que vous avez vu Sainte Philomène. Mais cette fois, monsieur Vianney se reprend et il bat en retraite. « Ne croyez pas cela, répond-il. Pourquoi, monsieur le curé, si c'est vrai, vous croiriez un mensonge ?» Puis le curé se coupe et laisse entendre à monsieur Tocanier cette phrase stupéfiante, dite sur le ton de la plus grande simplicité. « D'ailleurs, j'ai promis au bon Dieu de n'en rien dire. » Monsieur Vianney ne prétend plus qu'il a un bon cadavre, car il est tout de même venu à bout de ses forces. Maintenant, il se contente de dire, lorsqu'il se sent accablé, On se reposera dans l'autre vie. La nuit, il se retourne sur son lit, en proie à la fièvre, victime de cette toux qui ne le lâche plus. Il n'a pas voulu que l'on rembourre un peu sa mince et dure couchette. Il a le plus grand mal à se lever pour retrouver dans son église le terrible confessionnal qui l'attend. « C'est toujours à recommencer, gémit-il. Il est âgé de 73 ans et jamais il ne s'accorde même les quelques minutes de repos supplémentaires que sa chair crucifiée réclame à grands cris. « Oh, dit-il un jour, les pêcheurs finiront bien par tuer le pauvre pêcheur. » Il ne sait plus comment faire pour ne pas s'endormir au confessionnal. Lorsqu'il s'assoupit, le pénitent interrompt ses aveux pour le laisser reposer. Vraiment, Monsieur Vianney n'en peut plus. Et c'est pourtant un visage plein de sourires et des yeux toujours étincelants d'amour qu'il tourne vers les pèlerins, les pénitents, ses admirateurs et persécuteurs. À bout de force, parfois, il se laisse tomber sur une chaise en s'écriant d'un ton presque gai. Ah, vraiment, il y a de quoi rire. En ce mois de juillet 1859, les grandes chaleurs éprouvent douloureusement Monsieur Vianney. Ses défaillances se succèdent. Nul, d'ailleurs, ne peut entrer dans cette église d'Ars qui brûle comme une cassolette sans être suffoqué. Les personnes qui attendent leur tour de confession sortent à chaque instant pour retrouver, hors de cette fournaise, un peu d'air respirable. Lui ne sort pas. Et cependant, il n'est pas dans l'église. Il est dans sa cage de bois, chaque jour, d'une heure à 11 heures du matin, puis l'après-midi, d'une heure à 8 heures. L'air qu'il respire est impropre à entretenir la vie. Monsieur Vianney est vraiment, comme l'a dit un témoin, le martyr de la confession. Il tient encore, pourtant. Sa toux l'agace, parce qu'il craint de ne pas bien remplir son ministère. C'est ennuyeux, ça me prend tout mon temps. Et comme il habitue ses clients au miracle permanent de sa vie, personne encore ne songe qu'il approche de sa fin. Mais lui ne s'y trompe pas. Il est hors de doute qu'il pressent la mort. À ceux qui lui ont fait cadeau d'un beau ruban pour la procession, avant la fête Dieu de 1858, il a répondu en les remerciant « Je ne m'en servirai pas deux fois ». De fait, en juin 1859, il n'a pas eu la force de porter le Saint-Sacrement. Et quand il envoie Catherine au château de Sibens pour y toucher sa petite rente, « Ce sera la dernière fois, dit-il. » Le vendredi 29 juillet, Monsieur Vianney se livre à ses occupations ordinaires. Il passe 16 ou 17 heures au confessionnal, fait son catéchisme, dit la prière du soir. Rentrant chez lui, absolument exténué, il s'effondre sur une chaise en disant « Je n'en peux plus ». Péniblement, il monte à sa chambre. Le frère Jérôme l'aide à se coucher, puis sur sa demande le laisse seul. Et lorsqu'à 1 heure du matin, il veut encore se lever pour se rendre à l'église, il s'aperçoit qu'il en est incapable. Il frappe pour appeler. Catherine Lassanne, qui a pressenti quelque chose et guette le moindre signe, accourt aussitôt. « Vous êtes fatigué, monsieur le curé ?»« Oui, je crois que c'est ma pauvre faim, » dit-il dans un souffle. Il ajoute qu'il faut aller chercher monsieur le curé de Jassans et il répète au frère sacristain qui vient d'entrer, « C'est ma pauvre faim. »« Je vais chercher le médecin, » dit frère Jérôme. « C'est inutile. » L'abbé Tocanière arrive à son tour. Parle de sainte Philomène et de sa protection. « Oh, sainte Philomène n'y pourra rien, » dit le vieux prêtre. Alentour, le bruit se répand brutalement que monsieur le curé ne descendra pas ce matin-là, et la désolation des pèlerins s'exprime aussitôt. Certains crient et le réclament, d'autres, avec leur égoïsme de pénitent, viennent jusqu'auprès de son lit pour achever leur confession. Monsieur Vianney souffre en silence. Il accepte les soins du médecin avec docilité. Il est résigné, soumis, abandonné. Les missionnaires, les amis, les filles dévouées, des prêtres, des pèlerins même se succèdent à son chevet. Monseigneur de Langalerie, averti par de pressants messages que le mal du curé d'Ars empire, arrive, ardent, ému, priant à haute voix, effendant la foule à genouiller sur son passage. Il se penche sur le malade et les larmes de Monsieur Vianney tombent sur sa croix pectorale. Cependant, le désespoir des paroissiens et des pèlerins fait peine à voir. Les prières montent sans arrêt à l'autel de Sainte Philomène, sur la place, partout. Et pour arracher leur sein à la mort, on voit plusieurs hommes d'Ars monter sur le toit du presbytère, sous l'impitoyable soleil du début d'août, arrosant continuellement d'eau froide les murs et les tuiles, afin d'entretenir une certaine fraîcheur autour du malade. Lui est déjà parti. On vient de lui administrer les derniers sacrements. « Que le bon Dieu est bon, murmure-t-il. Quand je ne peux plus aller le voir, c'est lui qui vient. » Il communie et il pleure. « Pourquoi pleurez-vous ? » demande quelqu'un. « C'est triste de communier pour la dernière fois, » dit le curé d'Ars. Puis il se tait, et lorsqu'une sœur, de garde à son chevet, se met à chasser les mouches qui se posent sur son visage en sueur, il proteste. « Laissez-moi avec mes pauvres mouches. » Le jeudi 4 août 1859, à 2 heures du matin, Jean-Marie Baptiste Vianney rend son âme à Dieu. Sans agonie, enfin, il dort du sommeil espéré. Depuis 41 ans et 5 mois, il est le curé d'Ars. À Saint-Pierre-du-Val, le 13 mai 1959.